Ce soir, je vais vous parler du processus de saisie qui s'opère dans l'esprit et celui du lâcher prise. Donc, je vais vous parler en fait de la deuxième et de la troisième vérité, la vérité de la cause de la souffrance et la vérité de la cessation, de la libération, la fin de la souffrance. Je vous expliquais hier soir qu'il y avait trois fondements de la pleine conscience et qu'il y en avait un quatrième aussi. Et la force dans les enseignements du Bouddha, c'est que ce quatrième fondement renferme une partie de ses enseignements, et notamment celle des quatre nobles vérités. Si bien que lorsque nous observons l'instant présent, les quatre fondements de la pleine conscience, nous pouvons observer en pratique, de manière appliquée et directe, ces enseignements. Et c'est vraiment important, c'est vraiment puissant, parce qu'on ne nous enseigne pas des croyances, des idées, des concepts auxquels nous devons croire. Une autorité nous dirait qu'il faut croire à ceci et nous y croyons parce qu'on nous dit de le croire. L'enseignement du Bouddha est très empirique, est clinique. Il se met en pratique et on vérifie si ça fait sens ou si ça ne fait pas sens pour nous et en quoi ça fait sens. Thich Nhat Hanh disait, il y a quelque chose de plus important que les idées, c'est la libération de nos idées. Pour un bouddhiste, être attaché à une doctrine quelconque, même une doctrine bouddhiste, c'est trahir le Bouddha. Donc, comme je disais hier, avec cette première vérité, on ne peut pas, en tant qu'humain, éviter cette première flèche, la douleur de cette première flèche. La naissance et souffrance, la maladie et souffrance, la vieillesse, la mort. On ne peut pas faire autrement, on est dans un corps limité, conditionné, sensible. Les peines, être séparé de ceux qu'on aime, être avec des gens qu'on n'aime pas, c'est de la souffrance. Cette première flèche, on ne peut pas faire autrement, même physiologiquement. Notre corps cherche, au niveau mental et physique, à être dans une forme d'équilibre et d'homéostasie. Et vu qu'on est tout le temps dans un environnement changeant, le corps est sans cesse en train de devoir s'adapter. Et physiologiquement, ce qui se passe, c'est que le corps, le cerveau, on voit des signaux désagréables lorsque l'équilibre change. Donc on est conditionné dans notre ADN à vivre la douleur. Le truc, c'est que l'essentiel de notre souffrance, il provient de notre réactivité à cela. Et parfois, il n'y a même aucune douleur initiale dans l'instant, et on la crée tout seul. Pourquoi est-ce que l'être humain souffre autant ? Les maladies mentales, les traumas, la violence qu'il exerce, les guerres dont ça résulte, la détresse. Pourquoi l'humain souffre autant? Et c'est un autre enseignement puissant, parce qu'il nous amène à prendre notre propre responsabilité. C'est que le Bouddha explique que la souffrance, elle n'est pas à l'extérieur. La cause de la souffrance n'est pas à l'extérieur. Un président comme ci, une société comme cela. La cause et la source même vient et est logée dans notre esprit. Elle vient de de nos désirs et de nos attachements. Elle prend sa source là-dedans. Et le Bouddha nous invite à abandonner cette cause. La cause, la source dans le désir et l'attachement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on entend ça pour la première fois? On se dit, oh, moi je prends vite, j'aime bien être attaché, j'aime bien désirer. C'est cool. Hein? Comment est-ce qu'on, en entendant ça, hein, on le reflète sur notre propre expérience et on essaie d'avoir une réflexion honnête vis-à-vis de nous-mêmes. En quoi est-ce que le désir et l'attachement causent la souffrance dans mon existence? Je n'ai pas la réponse pour vous, j'ai la réponse pour moi. Je vous ai parlé de quatre attachements hier, les quatre attachements mondains. Plaisir, attachement au plaisir, aversion pour la douleur, attachement au succès, aversion à l'échec, attachement au gain, aversion pour la perte, et attachement aux louanges et aversion aux critiques. Parmi, le Bouddha fait beaucoup de listes, mais quatre autres grands attachements dont il a parlé. Et dans cette liste-là, il y a aussi l'attachement au plaisir sensoriel. Ces quatre, dans cet attachement au plaisir sensoriel, il est bon aussi de se questionner soi-même. Nous sommes dans une voie du milieu, on n'est pas dans la mortification des sens, et le fait de ne pas éprouver et ressentir du plaisir à l'écoute d'une belle musique, d'un bon repas, de confort. Mais comment est-ce que l'attachement à cela nous maintient dans une roue de souffrance et de cycle de naissance et de mort? Si on voit toute l'énergie qu'on met là-dedans, toutes les stratégies qu'on met en place. Comment il ne s'agit pas souvent juste de se faire un petit plaisir, mais il en faut souvent toujours plus, et il n'y en a jamais assez. Comment ça amène à la convoitise, à la comparaison, à la luxure. Comment l'attente d'un plaisir peut être douloureux. Et comment souvent quand on l'a, ben en fait la récompense elle n'est pas toujours si extraordinaire que ça. On se l'imagine incroyable, ça arrive. Ah ouais, ok, bon, le prochain. Et on passe au prochain. Hein, comment ça crée un stress en soi, un sentiment d'insatisfaction permanent. Le Bouddha donnait, je crois que c'est le Bouddha, il donnait cette image d'un géant très gros et qui mange tout le temps parce qu'il avait une toute petite bouche. Hein, il est obligé de manger constamment parce que pour remplir son ventre avec une toute petite bouche, il est obligé de tout le temps manger. Hein, comment c'est lorsqu'on obtient, on désire quelque chose et on n'obtient pas ce qu'on veut. Je vous parlais hier de ce concert formidable de musique. Comment c'était un instant le paradis et tout d'un coup c'est devenu l'enfer. Avec cette personne qui toussait, tout le monde qui commençait à s'agiter dans cette salle, l'aversion qui montait, l'attachement au plaisir des sens qui est contrarié. Et sur un plan sociétal, planétaire, de voir où ça mène, hein, pour la planète. Il nous en faut plus. Les inégalités que ça peut générer. Ceux qui ont plus, ceux qui ont moins. Tout ça derrière, c'est de l'attachement au plaisir des sens. Mais on pourrait en écrire des romans hein, là-dessus. Un autre grand attachement, c'est l'attachement à nos opinions, nos points de vue. Combien ça nous coûte hein, quand on veut avoir raison, puis que l'autre, il veut pas entendre. Ça peut être tout petit, hein. L'attachement à nos points de vue, nos opinions. Hein, même les mini-conflits que ça peut amener, comme les plus grands conflits que ça peut amener. Alors moi, je pense ça, tu penses pas comme moi, je te détruis. Point. Les paroles malveillantes que ça peut amener, hein, nos préjugés, nos opinions, hein, les commérages, les casser du sucre sur les uns, sur les autres, la colère que ça peut amener, la division entre un groupe et un autre. Il y a ce que je pense, il y a ce que tu penses, et on se fait la guerre. Donc il ne s'agit pas non plus de plus avoir d'opinion, il peut avoir de points de vue, mais y être attaché, regardons ça nous-mêmes. Vouloir avoir raison, penser avoir raison. Épictète, hein, ce stoïcien, il disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Nous portons des jugements sur tout. Sur la pratique méditative, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur comment ça devrait être. Et c'est très puissant, si on y regarde vraiment, c'est très puissant. À chaque assise, hein, il y a une pensée, l'opinion de comment ça devrait être, et l'attachement à cela. Et de voir comment ça peut créer de la souffrance lorsque je m'attache à comment devrait être une bonne assise. Comment devrait être un bon espace de retraite? Comment devrait se comporter chacun en retraite en se servant à manger? Ouais, c'est sans fin. Il y a aussi ce que le Bouddha a appelé l'attachement au rite ou rituel. Ça peut nous concerner un peu, ça le concernait énormément à son époque, mais on a peut-être tous nos petits rites ou rituels, certains sont nos petits encens, nos petites pierres, hein, nos petits trucs sur le développement personnel ou spirituel qui nous donnent l'impression que ça va nous sauver, hein, ou prier à un sauveur. Ça nous donne un sentiment de sécurité, mais au-delà de ça, ça peut être tous nos petits rites et rituels du quotidien, hein, nos petits côtés psychorigides dans les rangements, la propreté, les habitudes, hein, comment les choses devraient être, hein, ou comment les gens devraient faire les choses, hein, comment il faut faire, comment ça devrait se passer, hein, comme ci, comme ça, de telle manière, etc. C'est un peu des rites et des rituels d'une certaine manière. Un jour au restaurant, comment ça devrait se passer? On devrait m'accueillir, me tirer la chaise, me pousser la chaise. Il y a plein de petites choses. Ça peut être le rituel du café le matin. Il me faut mon rituel du café le matin avec telle chanson, j'en sais rien. Hein. Vous savez, on peut être attaché à tout et n'importe quoi. On peut être attaché à nos paires de chaussettes, à notre brosse à dents. Moi, je vois, mes enfants, ils sont très attachés à leur brosse à dents. Et ça peut être une sacrée crise quand tout d'un coup, on la perd. Et c'est des enfants. On peut être attaché aux plus belles valeurs, comme aux choses, à tout et n'importe quoi. On peut être même attaché aux enseignements du Bouddha, à la vacuité, à tout, hein. Moi, je suis très attaché à la civilité. Je vois que quand il y a des choses que je ne trouve pas civiles, je sens que ça m'énerve. Il Il y a tous ces rites et rituels qui nous amènent une certaine sécurité, un sentiment de contrôle. Il y a l'attachement au moi et à l'ego, à cette impression qu'il existe un moi permanent, solide, à là, à l'intérieur, qui nous amène à tout interpréter à travers le filtre du moi, comme si l'expérience qui se déploie en soi arrivait à quelqu'un, à moi, Nicolas. Comment ainsi j'ai l'impression que le monde tourne autour de moi et que je suis au centre du monde. Je crois que je donnais cette citation pendant la dernière retraite d'un réalisateur de film, Lelouch, qui disait: Dieu est le plus grand réalisateur du monde parce qu'il met en scène 8 milliards de personnes et fait croire à chacun qu'il a le rôle principal. Et c'est un peu ça. Il y a cette croyance en un moi constant, permanent, qui nous amène dans une vision complètement égocentrée des choses. Mes besoins, ma sécurité. Ma souffrance, mon histoire, mon identité. Et tout ça, on s'attache à cela. Et il y a une parole, un passage intéressant de Joseph Goldstein, qui est un enseignant américain très connu. Il dit cela: on utilise en Asie une sorte de piège à singe. Une noix de coco évidée est attachée par une corde à un arbre ou à un pieu fiché en terre. Au fond de la noix de coco, on pratique une petite fente et on y introduit une sucrerie. La fente est juste assez grande pour permettre à un singe d'y glisser la main ouverte, mais elle ne permet pas à un poing fermé d'en ressortir. Le singe sent l'odeur de l'aliment sucré, introduit la main pour saisir la friandise et ne peut plus la ressortir. Le poing refermé ne passe plus à travers l'ouverture. Quand les chasseurs arrivent, le singe panique mais ne peut plus s'échapper. Rien d'autre ne retient le singe captif que la force de son propre attachement. Il n'aurait qu'à ouvrir la main. Mais la force de convoitise est telle qu'il est bien rare qu'un singe lâche prise. Ce sont nos désirs et nos attachements mentaux qui nous retiennent dans leur piège. Il nous suffirait d'ouvrir les mains, de nous détacher de nous-mêmes, de nous détacher de nos attachements pour être libres. Nous gardons le poing fermé et on se piège tout seul. Donc nous sommes attachés à cette souffrance. Et la cause de cet attachement, c'est l'ignorance. C'est cette croyance enracinée que, en obtenant ces choses agréables et en se débarrassant de ces choses désagréables, je vais trouver la paix, la bonheur et le bonheur que je cherche. Le moi se cristallise autour de ces attachements. Imaginons que nous ayons tout. Matériellement, nous aurions tout. Est-ce que nous serions vraiment heureux? Même là, on aurait un corps qui peut tomber malade, mourir, une souffrance existentielle qui est malgré tout là. Nous plaçons notre bonheur à l'extérieur ou dans des états qui sont par nature conditionnés par des, ça veut dire qui sont le résultat de causes et qui sont impermanents, qui ne durent pas. Donc on est tout le temps en train de courir après cela. Cette ignorance, elle est vraiment profonde, hein. On y croit vraiment. On y croit que, ah, si j'avais vraiment une concentration parfaite, plus de pensée, plus de douleur dans le corps, là c'est bon, là j'y suis, là j'ai atteint l'éveil. Mais c'est pas vraiment ça. C'est des états qui vont passer. Ouais, c'est chouette d'avoir une bonne concentration, un corps souple, détendu, d'être dans un état agréable. Mais ça ne dure pas. On peut s'attacher à la concentration et ça peut devenir franchement insupportable parce qu'il faut sans cesse des conditions spécifiques quand même réunies. Un environnement parfaitement calme, on doit tout gérer, contrôler, ça peut être infernal. Il faut pas le moindre grain de sable dans le mécanisme. Et comme tout se passe toujours maintenant, dans le moment présent, ben la souffrance aussi, on la crée, ou on la répète, ou on la revit dans l'instant, on la recrée. Et ça se passe toujours la même chose. Et c'est ça que nous observons. Nous réagissons à une douleur initiale, et ce qui augmente la souffrance. Le processus dans l'instant, il est toujours le même. Il y a l'arrivée d'un contact, d'un de nos sens, une pensée, un contact visuel, auditif, olfactif, au niveau du goût ou une sensation, hein, au niveau du toucher, une sensation interne. La perception et le ressenti associés à ce contact vont faire que, hein, si le ressenti est désagréable, il va y avoir de l'aversion, je vais rejeter. Un moi s'identifie, j'aime pas, je veux pas. Et si le contact est agréable, il y a une forme d'avidité, de convoitise, j'aime, je veux. Et là-dessus, les constructions mentales se déploie l'histoire du identifié. Et dans la pratique, on peut observer ça à chaque instant. Il y a une douleur dans le genou, moi c'est le genou gauche, une douleur dans le genou, contact. La perception, c'est qu'il okay, y a une douleur dans le genou gauche, etc. Le ressenti, il est désagréable. Hein, je peux déjà dire, ah, mon genou gauche. Hein, déjà, là, il y a déjà de l'identification. J'ai mal dans mon genou gauche. Et après, ça peut construire. Hein, il peut y avoir une forme d'aversion, de rejet. L'attachement pour les plaisirs fait qu'il y a de l'aversion pour la douleur, comme si la douleur n'était pas du coup tolérée, elle ne devrait pas être là, il y a une erreur. Les constructions, ça peut être, oh là là, si je reste trop longtemps comme ça, peut-être ça va rester, ça va empirer. Il faudrait peut-être que je bouge. Ah, j'aime vraiment pas cette douleur. Ah, en fait, ça me fait un peu peur. Puis après, ça augmente. Puis après, mon esprit est complètement focalisé dessus. Puis ça augmente, ça augmente. Ah, tout ça à partir d'un premier contact. Et puis après, sur cette base-là, je parle, j'agis, hein, de manière conditionnée. Je me relève, ah oh, non mais franchement, ces retraites, là, on est assis trop longtemps, j'en parle à mes potes, ah oh, non mais franchement, vas-y pas, leurs coussins ils sont trop bas, trop haut. Mais après ça sort, hein. Tout ça vient, c'est de l'intérêt, et après il y a des déploie dans le monde, quoi. J'invente, mais ça pourrait être quelque chose qui se passe. Hein. Donc le mental, il nous joue des tours, hein. C'est comme un simulateur qui crée une réalité virtuelle, des mini-films en permanence qui tournent en boucle, que je... Rarement on vit une expérience difficile. Ok, j'ai vécu une expérience difficile, maintenant c'est bon. Elle tourne 50 fois dans la tête, 2 semaines après c'est encore là, ça retourne et ça recrée le contact de la pensée qui amène l'émotion, qui crée toutes les situations et les discussions, comment elles auraient dû être, pour être, comment j'aurais dû être. Ouais, on a un peu névrosé, hein. Et ça se passe, c'est le simulateur du mental qui simule cette réalité. Il simule le monde, hein. Une grande partie de ce qu'on voit à l'extérieur, de ce qu'on interprète à l'intérieur, est une interprétation. Filtrée par nos croyances, nos attachements, nos perceptions. Et qu'on est coupé de la réalité des choses telles qu'elles sont. C'est Rick Hansen, qui est un enseignant de méditation aux États-Unis, qui est aussi neurologue, neuroscientifique, qui dit cela. Le simulateur, donc le mental, vous coupe du moment présent et vous pousse à poursuivre une carotte qui est moins extraordinaire que vous ne le pensez, tout en vous dissimulant des récompenses à long terme plus importantes, comme la satisfaction, la paix intérieure. Ces mini-films débordent de croyances qui réduisent la réalité. En plus de renforcer les émotions douloureuses, ils vous conduisent à esquiver des bâtons qui ne vous menacent pas réellement ou qui ne sont pas si dangereux que cela. Et le simulateur fonctionne jour après jour, heure après heure, y compris la nuit dans vos rêves, et ne cesse de bâtir des structures neuronales qui, très souvent, ne font qu'augmenter votre souffrance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une fin à cela. La fin, la souffrance. Hein, le Bouddha dit, ainsi moine, il y a la noble vérité de la fin de la souffrance, c'est la disparition, la cessation de cette soif, le renoncement, l'abandon, la libération et le non-attachement à cette soif. Wajansha, il y a deux sortes de souffrances. La souffrance qui mène à plus de souffrance, et la souffrance qui mène à la libération de la souffrance. La première est l'attachement au plaisir éphémère et l'aversion pour les expériences désagréables, la lutte de la plupart d'entre nous jour après jour. La seconde est la souffrance qui vient quand vous vous permettez de sentir pleinement le changement perpétuel de vos expériences, plaisir, peine, joie, colère, sans peur et sans fuite. La souffrance de nos expériences dans l'instant nous libère de la peur et nous mène à la paix intérieure. Il y a ce qu'on appelle la cessation, la fin, la cessation et le renoncement qui nous amène à abandonner le conflit intérieur, hein, cette tension intérieure latente, permanente, entre les choses telles qu'elles sont et les choses telles que je les aimerais. Dans cette qualité de cessation, nous laissons apparaître ce qui doit apparaître à la conscience. Et comme toute chose est impermanente et changeante, nous la laissons se terminer. Ça peut être une envie. Ah, il y a une envie qui monte. Ok, je reste avec jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Nous permettons aux choses de naître, de vivre et de mourir dans notre esprit. Donc on reste au contact du ressenti, cette soif d'avidité ou d'aversion, et on cesse de saisir ça. C'est la qualité de non-attachement. On permet aux choses de mourir, de s'éteindre. Pas facile, hein? Parce que laisser mourir une soif, un attachement, c'est comme mourir un peu soi-même, des parts de nous-mêmes. comme l'ego se cristallise autour de nos attachements. Laisser une soif, un attachement se terminer, une envie, un désir s'estomper. C'est comme mourir un peu. C'est comme si, permettons à l'ego de lâcher prise. Mais c'est pas facile. Ça nous met dans une posture, dans le moment présent, très instable et de vulnérabilité. Très forte. On est là et on laisse les choses se passer. Ça casse la coquille de l'ego. Mais c'est très tendre, cette vulnérabilité. Il y a une force qui est là. Mais ça peut faire peur. Donc on commence avec des petites choses où on laisse. Des petites choses, ou les petites choses qui peuvent émerger et puis passer. On commence avec ça, ce qu'on peut. Des fois, c'est aussi d'abandonner l'attachement au fait de ne plus avoir de pensée, d'être heureux, de trouver une bonne expérience. C'est André Comte-Sponville, il dit, j'aime bien cette phrase, « Je suis heureux car j'ai renoncé à mon bonheur. » Et des fois, c'est un peu ça, on renonce à la bonne expérience. Ok, je m'abandonne. J'abdique, je me laisse crucifier. C'est bon. Et c'est dans cette lutte qu'il y avait avant qui s'arrête où on trouve la libération. Ouais. J'abandonne le bonheur que je cherche tellement pour m'ouvrir à l'expérience telle qu'elle est. Il y a ce qu'on appelle la non-passion, dans cette qualité de fin, de cessation de la souffrance, de libération de la souffrance. La non-passion qui amène un contentement pour la simplicité et pour rien, une intimité, et qui amène à une intimité avec soi-même, le monde. Notre esprit est tellement exalté par l'intensité émotionnelle, des sens. Un tout à la télé doit être émotionnel, il faut des larmes là. Et on est autant exalté dans l'agréable que dans le désagréable, que dans le bonheur que dans le malheur. Et l'esprit se focalise toujours sur cette intensité, cette passion. Le neutre n'est pas intéressant. Combien en méditant, on rencontre le neutre, et puis beaucoup de pratiquants disent « Mais c'est horrible, il ne se passe rien, c'est neutre. » Ben, ouais. On est attaché à au j'aime ou au j'aime pas, à l'agréable ou au désagréable. Et ainsi, on se coupe à une conscience beaucoup plus vaste de la vie. Et finalement, il y a ce qu'on appelle le désenchantement, la désillusion du monde conditionné. On est aussi séduit par nos personnalités, par la forme, la matière, nos civilisations, nos technologies, les performances. Et il y a comme une forme de désenchantement de cela. Non pas qu'on ne reconnaît plus la beauté ou l'émerveillement, mais on est moins exalté. J'étais un fan absolu de Fribourg-Gottéron pendant des années. Et quand j'étais petit et ado, j'exultais, j'allais au match de hockey, je criais, je gueulais sur l'arbitre. C'était marrant. Et puis là, ils ont gagné cette année. Ils ont gagné le championnat. Moi, j'étais très content. Et quand je voyais ces foules en liesse et tout... Je disais, cool, mais bon, déjà de 1, le lendemain, on a mal à la tête, on n'est pas bien. J'ai un pote qui m'a appelé, il m'a dit, ouais, je suis sur une terrasse, là, papa, j'ai fait la fête toute la nuit. Donc, il y a de la souffrance, après. ça amène à dire des conneries aussi sur les autres équipes. Et, hein, le supporter, quand on est dedans, des fois, on est dans cet effet de groupe-là, on est complètement enchanté là-dedans, on peut vraiment devenir bête. Hein. Donc il y a une qualité de désenchantement. Et je vais finir avec deux petites paroles, je parle longtemps, hein. Ça va encore cette fois. Une parole du Bouddha. Toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Quand ceci est perçu avec sagesse, on devient désenchanté de ce qui ne peut pas nous satisfaire. Juste ça est le chemin de purification. Toutes les choses conditionnées sont insatisfaisantes. Quand ceci est perçu avec sagesse, on devient désenchanté de ce qui ne peut pas nous satisfaire. Juste ça est le chemin de purification. Toutes les choses conditionnées sont non-moi, impersonnelles. Quand ceci est perçu avec sagesse, on devient désenchanté de ce qui ne peut pas nous satisfaire. Juste ça est le chemin de purification. Et Ajahn Chah, le but de la pratique est de rechercher à l'intérieur, de pénétrer en profondeur jusqu'à retrouver l'esprit originel. C'est l'esprit sans attachement, qui n'est pas altéré par les objets mentaux et qui ne recherche rien d'agréable ni de désagréable. Il demeure continuellement dans un état de présence attentive, pleinement conscient de tout ce dont il fait l'expérience. Quand l'esprit est ainsi, il ne devient rien et rien ne peut l'ébranler. Pourquoi ? Parce que la conscience est présente. L'esprit se connaît comme étant pur. Il a atteint son état originel d'indépendance.